Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ceux qu'il a créés mâles et femelles. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Musique. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 20 Aban 1399 du calendrier iranien, 10 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. La Russie déploie des soldats de la paix au Karabakh, alors que la guerre touche à sa fin entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Le président iranien Hassan Rouhani exhorte les États-Unis à compenser les dégâts infligés à la nation iranienne. Au Haut-Karabakh, la guerre touche à sa fin entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Et aux États-Unis, Donald Trump limoge le ministre de la Défense, Mark Esper. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici notre journal. L'Iran a de nouveau critiqué les États-Unis pour avoir imposé des sanctions contre la République islamique d'Iran. S'adressant à l'Organisation de coopération de Shanghai, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les États-Unis devaient compenser les pertes qu'il avait infligées à la nation iranienne. M. Rouhani a appelé Washington à revenir à l'ordre public et à respecter ses engagements en termes des réglementations internationales. Le président iranien a également critiqué l'unilatéralisme des États-Unis, affirmant que Washington avait imposé sa propre politique à d'autres pays du monde. Le président Rouhani a par ailleurs réitéré la disposition de Téhéran à coopérer avec les pays de la région dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le conseiller d'Iran auprès du siège des Nations Unies à Genève, s'exprimant lors de la 36e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, a demandé aux États-Unis de poursuivre les assassins du général Soleimani et mettre fin à la violation flagrante des droits de l'homme. Lors de son discours dans l'Assemblée des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, Mohammad Sadatinejad, le conseiller aux droits de l'homme de la mission iranienne auprès du siège de l'ONU à Genève, a évoqué la longue histoire de graves violations des droits de l'homme aux États-Unis et a suggéré à Washington d'arrêter cela. Lors de son intervention, le haut diplomate iranien a exhorté les États-Unis à mettre fin aux meurtres systématiques à l'aide des drones et à traduire en justice les assassins de 5 citoyens iraniens, dont le martyr Soleimani, le héros de la lutte contre le terrorisme, assassiné le 3 janvier 2020 à l'aéroport de Bagdad sur ordre direct de Donald Trump. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que des soldats de la paix russe étaient déployés dans la région contestée du Haut-Karabakh à la suite d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un contingent de maintien de la paix russe est déployé le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du couloir reliant le Haut-Karabakh à la République d'Arménie, a déclaré Poutine dans un communiqué télévisé mardi. Notre commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le président américain Donald Trump a annoncé le limogeage largement attendu de son ministre de la Défense, Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du Centre national du contre-terrorisme, Christopher Miller. Les relations entre Trump et le technocrate Mark Esper étaient tendues depuis que le chef du Pentagone s'est opposé publiquement, au mois de juin, au déploiement de l'armée pour réprimer les manifestations antiracistes aux États-Unis. Christopher Miller devient ministre par intérim jusqu'au 20 janvier 2021. Il est techniquement le cinquième chef du Pentagone de Donald Trump. Aux États-Unis, les principales figures républicaines, y compris le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont soutenu les efforts du président Donald Trump pour contester les résultats des élections. McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé qu'il avait rencontré le procureur général William Barr sur la question. William Barr a déjà donné aux procureurs fédéraux le feu vert pour poursuivre les allégations d'irrégularité de vote à travers les États-Unis. Cela est intervenu après que l'équipe de la campagne de Trump a dévoilé un procès contre des responsables électoraux en Pennsylvanie à la suite de poursuites similaires lancées dans plusieurs autres États. Évoquant des fraudes sans apporter de preuves, Donald Trump refuse de concéder sa défaite et a annoncé vouloir demander des recomptages et déposer des plaintes dans les États où les résultats sont très serrés. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens pourrait être dans l'incapacité de payer ses employés en raison de la grave crise financière qu'elle traverse. Malgré nos efforts pour trouver les moyens nécessaires afin de préserver nos projets humanitaires et de développement, c'est avec un grand regret que j'ai informé nos équipes aujourd'hui que nous n'avons actuellement pas assez de fonds pour honorer leur salaire ce mois-ci, a annoncé le commissaire général de l'ANRUA, Pierre Lazzarini, dans un communiqué. En 2018, Washington, jusqu'alors principal donateur, a mis fin à son aide financière annuelle de 300 millions de dollars, estimant que l'agence avait fait son temps. Plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés ou ont fui leurs terres entre avril et août 1948 à la création de l'entité sioniste selon l'Organisation des Nations Unies. Le négociateur en chef palestinien Saeb Erekat est décédé mardi après avoir contracté le nouveau coronavirus à l'âge de 65 ans, a indiqué l'autorité autonome palestinienne. Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, le haut dirigeant palestinien, âgé de 65 ans, est décédé dans un hôpital à Qods, où il avait été admis le 18 octobre. Erekat était le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine. Il a également été le négociateur en chef lors des pourparlers sur le conflit de plusieurs décennies avec le régime israélien. Ces pourparlers se sont soldés par un échec en 2014. Saeb Erekat, a vivement critiqué la politique de colonisation du régime israélien que les Palestiniens considèrent comme un obstacle majeur à la résolution du conflit entre Israël et la Palestine. Plus récemment, il avait vivement critiqué la récente normalisation des relations entre le régime israélien et des pays arabes, c'est-à-dire les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et enfin, l'approvisionnement en gaz. Les revenus de l'Iran en 7 ans se sont élevés à 11 milliards de dollars. Les revenus de l'Iran provenant de l'expansion de l'approvisionnement en gaz au cours des 7 dernières années se sont élevés à 11 milliards de dollars et à la fin de l'année civile iranienne 1402, dont le 20 mars 2023, ce chiffre atteindra un total de 28 milliards de dollars. Le directeur général de la Compagnie nationale de gaz, Hossein Montazer Torbati, a fait cette annonce lors de la cérémonie d'ouverture de 181 projets gaziers dans la province de Fars, qui a été lancée en présence du ministre du Pétrole, Bijan Namdar Zangane, par vidéoconférence. L'Iran est un pays unique au monde pour l'approvisionnement en gaz, a-t-il déclaré, notant que les bons développements dans le champ gazier de Pars Sud et la croissance de la production ont conduit au développement de l'approvisionnement en gaz. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que des soldats de la paix russe étaient déployés dans la région contestée du Haut-Karabakh à la suite d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un contingent de maintien de la paix russe est déployé le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du couloir reliant le Haut-Karabakh à la République d'Arménie, a déclaré le président Poutine dans un communiqué télévisé mardi. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il avait commencé à envoyer 1960 militaires ainsi que leurs équipements et leurs véhicules. Plus tôt dans la journée, les dirigeants de la République d'Azerbaïdjan et de l'Arménie ainsi que les responsables russes ont signé une déclaration sur la fin de la guerre dans la région du Haut-Karabakh contestée. L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur du jour au lendemain. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent le Haut-Karabakh depuis septembre. La Russie tenait de négocier la fin de la guerre. Le Haut-Karabakh est internationalement reconnu comme faisant partie de la République d'Azerbaïdjan, mais il est détenu par des séparatistes arméniens de souche, soutenus par Erevan depuis 1992, date à laquelle ils ont réussi à battre l'armée de l'Azerbaïdjan dans une guerre qui a tué quelque 30 000 personnes. Selon le président russe Vladimir Poutine, les deux parties belligérantes échangerait des prisonniers de guerre et des morts à la guerre et toutes les liaisons économiques et de transport dans la région seraient rouvertes. En vertu de cet accord, la République d'Azerbaïdjan conserverait tous les acquis territoriaux, et les forces de souche arméniennes doivent céder le contrôle d'un certain nombre d'autres territoires d'ici le 1er décembre. Le président Poutine a exprimé l'espoir que l'accord ouvrirait la voie à un règlement politique durable du conflit dans la région du Haut-Karabakh. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que la Turquie, qui est un allié de l'Azerbaïdjan, serait également impliquée dans les efforts de maintien de la paix dans la région du Haut-Karabakh. Plus tôt mardi, le président Ilham Aliyev et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté de la création d'un centre de maintien de la paix conjoint russo-turc pour surveiller la trêve. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a déclaré qu'Ankara poursuivrait les discussions sur la manière d'observer et de surveiller le cessez-le-feu en coordination avec la Russie. Cependant, Moscou nie l'accord sur la présence de soldats turcs de maintien de la paix dans la région du Haut-Karabakh. Par ailleurs, le Kremlin a déclaré mardi qu'il n'y avait pas d'accord sur le déploiement de casques bleus turcs dans le Haut-Karabakh. En outre, le chef des séparatistes arméniens du Haut-Karabakh a déclaré que le cessez-le-feu était inévitable. L'accord faisait suite à 3 tentatives infructueuses de cessez-le-feu et à des progrès incessants des troupes de l'Azerbaïdjan. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré que la décision a été prise sur la base d'une analyse approfondie de la situation de combat et en collaboration avec les meilleurs experts à Erevan. Ce n'est pas une victoire, mais il n'y a pas de défaite tant que vous ne vous considérez pas vaincu. Nous ne nous considérons jamais vaincus et cela deviendra un nouveau départ dans une ère d'unité nationale et de reconnaissance, a écrit Pachinian sur les réseaux sociaux. Les ressources militaires n'étaient pas totalement efficaces, a-t-il ajouté, notant que certains combattants en première ligne n'avaient pas pris de repos depuis un mois. Auparavant, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés devant le siège du gouvernement à Erevan, capitale de l'Arménie, et avaient pris d'assaut le bâtiment pour protester contre l'accord en criant « Nous n'abandonnerons pas ». Ils ont également vandalisé les bureaux.
Parole d'experts. Que fait Israël au Canada? Le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas l'intention de faire enquête sur le scandaleux recrutement illégal par le consulat d'Israël à Toronto pour l'armée israélienne, malgré la demande des Canadiens. Le ministre canadien de la Justice, David Lametti, laissera plutôt le soin aux autorités policières de se pencher sur la question, qui, elles aussi, y passeront sans doute l'éponge. Le quotidien canadien Le Devoir révélé lundi qu'une centaine de professeurs d'université, d'auteurs, de représentants syndicaux, de militants pour les droits des Palestiniens avaient envoyé une lettre de plainte au ministre Lametti. La missive argue, photo à l'appui, que le consulat d'Israël à Toronto a publié des invitations sur son site web offrant de rencontrer des représentants des forces de défense israéliennes, entre guillemets évidemment, le surnom utilisé pour l'armée criminelle d'Israël, dans ses bureaux. ce qui représente, selon les plaignants, du recrutement pour le compte de l'armée sioniste en sol canadien. Le groupe associé à un avocat de Montréal a demandé au ministre de faire enquête et de porter des accusations contre les employés consulaires si leurs allégations s'avèrent. Le ministre a cependant fait valoir, en conférence de presse sur un autre sujet lundi, qu'il revient aux autorités responsables et non à son bureau de déterminer si les allégations sont fondées. Il faut que les diplomates dans un autre pays, donc les diplomates sionistes qui sont ici, suivent la loi canadienne, a en substance confirmé le ministre, avant d'ajouter « D'habitude au Canada, il relève des enquêteurs de la police de décider s'il y a eu des infractions et du service des poursuites pénales, s'il y a lieu de procéder avec des accusations formelles, donc je vais laisser la décision aux institutions qu'on a au Canada de suivre la situation. » En fait, une telle réponse, un tel argument relève évidemment d'intimidation et de chantage exercés à l'encontre de l'État canadien par Israël. Le bureau du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, n'a pas voulu non plus faire de commentaires, s'en remettant aux propos du ministre de la Justice. Ce dernier a en outre pris soin de faire valoir, en entamant sa réponse aux allégations que le Canada, en tant que pays ayant des relations avec Israël, de même que des relations personnelles avec les Israéliens, pourraient autoriser ça. Est-ce vrai? En effet, la loi canadienne sur l'enrôlement à l'étranger interdit tout recrutement militaire au Canada, à moins qu'il soit mené par des diplomates auprès des ressortissants de leur propre pays. Le consulat d'Israël au Québec, qui s'est chargé de répliquer aux allégations, affirme que ces invitations à rencontrer des représentants de l'armée israélienne représentent un service consulaire offert aux Israéliens et pas aux non-israéliens qui doivent faire le service militaire en vertu de la loi du pays. C'est donc Israël qui décide de l'avenir des jeunes Canadiens sous prétexte que ces derniers possèdent un passeport israélien. Le groupe citoyen qui a présenté sa plainte au ministre Lametti craint toutefois que le consulat israélien ne recrute aussi des Canadiens tout court, ainsi que des citoyens ayant la double nationalité israélienne et canadienne. Ce second cas serait interdit par la loi sur l'enrôlement à l'étranger. Que dit la loi ? Quiconque, dans les limites du Canada, recrute ou incite autrement une personne ou un groupe de personnes à s'enrôler ou accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d'un État étranger ou dans d'autres forces armées qui opèrent dans cet État est coupable d'une infraction. D'ailleurs, l'association affirme, nous comprenons également que l'armée israélienne a pendant des années mené des programmes dans des écoles, des organisations communautaires canadiennes qui visent à inciter des personnes au Canada à s'enrôler dans l'armée israélienne en violation directe de la loi sur l'enrôlement à l'étranger, article 11. Des membres de l'armée sioniste, du personnel enrôlé et des anciens combattants feraient des présentations en personne et à distance dans le but d'inciter les personnes à s'enrôler. Une question se pose d'ores et déjà. Si la Chine, l'Iran ou la Russie recrutaient des soldats au Canada, traiterait-on la question à la légère comme on le fait avec Israël? Bruce Katz-Pajou de l'association Palestiniens et Juifs Unis décrit comment ce recrutement se passe, pourquoi il est illégal selon les lois canadiennes, comment le ministre de la Justice Lametti a évité de répondre directement aux questions soulevées par la journaliste Devoir, Marie Vastel, et comment les membres de BDS Québec entendent forcer le gouvernement canadien à appliquer ses propres lois. Cet entretien a été reproduit par mondialisation.ca. Nous vous invitons à suivre l'entretien.
Il y a une semaine, si les gens lisent le journal Le Devoir, et puis bon, il y a eu quelques échos de ça, mais à la manchette, à la une, donc la grande manchette du Devoir, disait que Israël recrute au Canada des soldats pour les forces armées israéliennes. Vous savez que je pense que c'est illégal. Pour en parler, nous avons rejoint Bruce Katz, qui est de l'organisation Palestiniens et Juifs Unis, mais aussi avec BDS Québec, boycott, désinvestissement et sanctions pour Israël. Il est avec nous. Bonjour, Bruce.
Bonjour.
Merci beaucoup pour cette demande d'entrevue.
Il me fait plaisir, au contraire, c'est moi qui vous remercie.
Oui. Bruce, vous avez débusqué une information fort importante sur le recrutement de soldats au Canada par les forces armées israéliennes. Expliquez-nous en quoi il s'agit.
Bon, mais d'abord, nous savons que l'armée israélienne a, pendant des années, mener des programmes dans certaines écoles concessionnelles et dans certaines organisations communautaires canadiennes qui visent à inciter des individus au Canada, donc étant des citoyens canadiens, s'enrôler dans l'armée israélienne en violation directe de la loi sur l'enrôlement à l'étranger.
Mm-hmm.
Je vais citer la loi succinctement là, pour l'auditoire. Donc, des membres des forces de défense israéliennes, du personnel enrôlé, des anciens combattants, feraient donc des présentations soit en personne, soit à distance, dans le but d'inciter des Canadiens à s'enrôler dans l'armée israélienne. Maintenant, en termes de droit canadien, il y a une loi qui existe sur l'enrôlement à l'étranger, c'est-à-dire dans une armée étrangère des Canadiens. Mm-hmm. Et donc, on dit, c'est le 11.1 sur le recrutement, que quiconque, dans les limites du Canada, recrute ou incite autrement une personne ou un groupe de personnes à s'enrôler ou à accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d'un État étranger ou dans d'autres forces armées qui opèrent dans cet État, est coupable d'une infraction. Puis il y a une seule exception à la règle, et c'est la suivante. Cette loi ne s'applique pas à l'action des fonctionnaires ou agents consulaires ou diplomatiques lorsqu'ils enrôlent des ressortissants du pays qu'il représente et non des ressortissants du Canada,
mm-hmm.
en conformité avec les règlements.
Mm-hmm.
Et donc, pour nous, en ce qui nous concerne, parce qu'il y a eu la question de double nationalité, hein,
mm-hmm.
c'est-à-dire israélien et canadien, pour nous, la loi est claire. Qui, je répète, et l'exception, c'est des ressortissants du pays que les diplomates consulaires ou l'ambassadeur représente, et non des ressortissants du Canada.
Ouais, ouais.
Donc, en ce qui nous concerne, même s'il s'agit de quelqu'un qui a une double nationalité, si on est Canadien, on est Canadien, et la loi s'applique.
Oui. Mais quelle a été la réaction? D'abord, juste, c'est illégal, mais il y a toujours une logique à cela. C'est vraiment une question de défense nationale pour le Canada aussi. C'est que qu'imagine que si un pays, si la Chine venait recruter pour les forces armées chinoises, il y aurait un tollé inimaginable.
Ben oui, parce que ce qui arrive en fin de compte, c'est que on accepte et il la perd en tout cas. On parlera de la réaction du ministre de la Justice, David Lametti. Mais il y a un deux poids, deux mesures qui s'applique ici, comme c'est souvent le cas quand il s'agit de l'impunité d'Israël.
Ouais.
C'est-à-dire que la loi, en tant que loi, devrait s'appliquer intégralement dans n'importe quelle cause, dans n'importe quelle situation d'une armée étrangère qui essaie de recruter des Canadiens pour une armée étrangère.
Ouais.
Et même que si on avait, par exemple, on a eu des jeunes qui sont allés se battre du côté de l'État islamique, et ceux qui s'avèrent en passant une force proxy de certains intérêts occidentaux en Syrie pour essayer de déstabiliser le gouvernement d'Al-Assad, mais c'est une autre histoire. Mais je veux dire que si on a le droit de les poursuivre en justice, il me semble qu'on devrait aussi avoir le droit intégralement de poursuivre les individus, que ce soit des diplomates consulaires ou autres.
Mm-hmm.
Ils font pareil au Canada pour le compte des forces de défense israéliennes. Puis en fin de compte, la lettre qu'on a envoyée au ministre de la Justice, Lametti, a été accompagnée par une plainte formelle et aussi un document de preuve. On n'est pas on n'y est pas allé les mains vides. Sait effectivement, on a les noms que je ne discuterai pas ici, car je peux vous dire que hier matin, en suivant le processus que le ministre de la Justice Lametti a...
Mais avant d'aller là-dedans, je veux poser la question, parce que vous avez eu une manchette, donc une grosse nouvelle que vous avez eue là-dessus. Quelle a été la réaction du ministre Lametti? En passant, c'est le député de la circonscription dans laquelle nous sommes à CKVL. Alors, j'aimerais bien savoir sa réaction.
Évidemment, d'abord, je pense qu'il faut féliciter le Devoir puis la journaliste Marie Vastel pour franchement un grand travail journalistique et qui demande un certain courage aussi. Hein.
Ouais.
On sait c'est quoi la portée du lobby pro-Israël ici. Mais elle est allée à une conférence de presse qui était une conférence de presse du ministre de la Justice fédérale. Mm-hmm. Un autre sujet. Mais elle lui a posé la question par rapport au recrutement illégal au Canada. Et lui, il a dit que c'était pas initialement de sa responsabilité. Et la journaliste Marie Vassel lui a demandé. J'ai suivi la conférence de presse. Comme ça, vous vous en lavez les mains.
Mm-hmm.
Lui, sa réponse a été qu'en fin de compte, qu'il revient aux autorités responsables et non à son bureau de déterminer si les allégations sont fondées. Lui, il a dit ceci, je le cite, « Il faut que les diplomates dans un autre pays, donc les diplomates d'Israël qui sont ici, suivent la loi canadienne. D'habitude, au Canada, il relève des enquêteurs de la police de décider s'il y a eu des infractions et du service des poursuites pénales, s'il a lieu de procéder avec des accusations formelles.
Ouais.
Donc, je vais laisser la décision aux institutions qu'on a au Canada de suivre la situation. Même réponse, en fin de compte, du côté du bureau du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui n'a pas voulu faire de commentaires. Hier matin, en suivant l'incitation du ministre de la Justice, nous avons envoyé comme courrier recommandé et la lettre qu'on avait envoyée au ministre de la Justice et la plainte formelle contre ceux et celles qui osent venir recruter pour les forces de défense israéliennes au Canada,
mm-hmm.
ainsi qu'un document de preuve.
Mm-hmm.
Et je peux vous dire que le tout, la lettre, la plainte formelle, le document de preuve, ça consiste de 37 pages qui ont été envoyées, comme j'ai dit, par courrier recommandé hier matin à la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Ouais.
Donc, on va suivre ça de très près.
Ouais. Je rappelle, on parle avec Bruce Katz, qui est de l'organisation BDS Québec, Boycott, Désinvestir et Sanctions contre Israël, et aussi de Palestiniens et Juifs Unis, qui est une organisation qui existe depuis bien des années ici à Montréal. Mais juste, je veux encore revenir sur David Lametti, qui est notre député et notre ministre de la Justice. Lui n'a pas dit il n'est pas... Que, parce qu'un ministre de la Justice peut intenter des actions. Ils peuvent amener la police à... Donc, lui, il a dit, bon, on va laisser ça, et c'est vous qui devez agir,
oui,
c'est ça.
Fait, donc, vous avez entièrement raison. Et ce qui est surprenant dans tout ça, mais remarque hein, qu'il fait exactement pareil dans la question de Meng Wanzhou,
ouais,
qui a été arrêté ici, là, et donc, il aurait pu mettre fin lui-même, il a l'autorité pour mettre fin à ça, là,
ouais,
à toute cette mascarade et charade mm-hmm. imposée par le gouvernement Trump. Il fait pareil avec cette question ici, parce que il s'agit ici aussi, il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi les actions aussi de diplomates consulaires
oui.
qui font pareil. Puis, ce qui est important, par exemple, et la METI a été obligée de l'avouer, c'est que les diplomates consulaires ont une immunité limitée.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, bon, un ambassadeur a l'immunité total, mm-hmm. ce qui peut renoncer, mais c'est très peu probable dans le cas mm-hmm. d'un ambassadeur. Mais pour les diplomates consulaires, il faut qu'ils suivent les lois canadiennes.
Oui.
Et la METI, il a avoué, c'est le cas. Ils n'ont pas une immunité total.
Oui.
Donc, en ce qui concerne le rôle du ministre de la Justice dans ça, oui, c'est vrai qu'il aurait pu intervenir. Il a refusé d'intervenir, puis en fin de compte, il nous a relancé la balle.
Mm.
Et nous, on a pris la balle hier, puis on l'a envoyé chez la GRC. Et comme je viens de vous dire, on va suivre ça de très près. On a l'intention de voir à ce que les diplomates et les intérêts des forces de défense israéliennes ne puissent agir avec impunité ici sur le sol canadien.
Bruce Katz, c'était un plaisir, c'est très et c'est un sujet que nous allons suivre ici à l'émission Le Pied à Papillon. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt.
Oui. C'était Bruce Katz qui est de l'organisation BDS Québec et il parle de cette entorse ou cette violation de la loi canadienne par des autorités consulaires israéliennes qui sont ici à Montréal et surtout à Toronto, et où le Canada ferme les yeux, surtout notre Justin National qui ferme les yeux, qui refuse et qui permet à tout à Israël.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest.
On commence par l'Iran. L'administration Trump, en coordination avec Israël et les États arabes du Golfe Persique, chercherait à imposer d'importantes sanctions à l'Iran avant l'investiture de Joe Biden, prévue début janvier, afin d'empêcher la nouvelle administration américaine de réintégrer l'accord nucléaire de 2015, ont rapporté dimanche les sources israéliennes. Certaines sources ont indiqué à la chaîne israélienne Channel 13 que le représentant spécial des États-Unis pour l'Iran et le Venezuela, Elliot Abrams, compte annoncer une série de nouvelles sanctions contre l'Iran chaque semaine à partir de maintenant et jusqu'au 20 janvier. Je rappelle que Abrahams se trouve en ce moment même dans les territoires occupés de la Palestine et il s'apprête à se rendre dans les deux pays du Golfe Persique qui ont normalisé leurs relations juste avant la défaite électorale de Trump, à savoir les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Ces sanctions auront comme prétexte le programme balistique de l'Iran et son soutien au groupe de la résistance à travers la région, ainsi que les violations des droits de l'homme formulées par un pays, les États-Unis, qui, je vous rappelle, est le théâtre en ce moment même des violations flagrantes des droits des Afro-Américains vu le résultat des élections du 3 novembre. En tout cas, le but de la manœuvre est de ne pas donner la possibilité à Joe Biden de lever ses nouvelles sanctions. Selon plusieurs analystes, Israël et les États arabes du Golfe Persique estiment que le nouveau président américain lèvera rapidement les sanctions imposées contre Téhéran en raison de son programme nucléaire, afin de relancer le dialogue avec les Iraniens. L'objectif est de prendre le plus de sanctions possibles d'ici le 20 janvier, a déclaré un responsable israélien sous couvert d'anonymat. Et bien, dans ce même sens, l'ancien ambassadeur américain en Israël, Daniel Kortzer, a prédit que le président américain élu Joe Biden va réintégrer l'accord nucléaire iranien conclu en 2015, abandonné par l'administration Trump. Ces remarques interviennent alors que le président iranien Hassan Rouhani a exhorté Joe Biden à corriger les erreurs commises par le président Trump. Je suppose que l'administration Biden voudra trouver un moyen de rentrer à nouveau dans l'accord, a déclaré dimanche Kurtzer à la radio de l'armée d'occupation sioniste. Je pense qu'ils en parleront à Israël avant de faire quoi que ce soit, mais la reprise de cet accord représente un intérêt d'une grande importance pour l'arrêt du programme iranien et de l'enrichissement de l'uranium déjà commencé en raison du retrait de Trump de l'accord. Il convient de noter que Téhéran refuse de renégocier l'accord sur son programme nucléaire et cela, on l'a dit, le chef de la diplomatie iranienne à plusieurs reprises ainsi que son porte-parole l'ont répété ces derniers jours. Le président américain Donald Trump avait retiré unilatéralement en 2018 les États-Unis de l'accord nucléaire. Mais orientons-nous directement vers la Syrie où 4 soldats américains ont été tués dimanche 8 novembre par un engin explosif dans le gouvernement de Hasake, occupé en partie par les États-Unis, selon l'agence Sana. L'engin explosif a visé un véhicule militaire américain dans le village de Markadeh sur la route qui relie Hasake à Deir ez-Zor, selon Sana, qui a précisé qu'un traducteur faisait partie également des tués. Les corps des militaires américains ont été emmenés vers une base américaine toujours dans cette même région, base qui s'appelle Shadadeh, et après l'explosion, les forces américaines ont bouclé la zone tandis que des avions de combat américains ont survolé le lieu de l'explosion. Les forces américaines et leurs alliés locaux, à savoir les forces démocratiques syriennes FTS dirigées par les Kurdes, contrôlent désormais la majeure partie des champs de pétrole dans le nord-est de la Syrie, mais il est temps qu'ils quittent ce territoire qu'ils occupent. Des milliers de camions chargés de matériel militaire sont récemment arrivés sur les bases américaines de Hasake en provenance de l'Irak, du Kurdistan irakien, mais les tribus, en créant une armée de soutien à l'armée nationale syrienne, ont commencé à lutter contre la présence US. En représailles, les États-Unis ont décidé lundi de nouvelles sanctions à des parlementaires et responsables militaires syriens qu'ils accusent de soutenir la production pétrolière syrienne au profit du pouvoir de Bachar el-Assad, à savoir le président de l'État syrien. En tout cas, le Trésor et le département d'État américain ont inscrit sur leur liste noire 19 personnes et entités. Il s'agit notamment de sociétés de l'industrie pétrolière, Arfada Petroleum Private Joint Story Company et Salizar Shipping SAL, basé au Liban et en Syrie, ainsi que leurs dirigeants. Parmi les personnes visées figure aussi le chef de renseignement de l'armée de l'air, Qassam Joudat Ismaël, et celui d'une autre branche de renseignement, Nasr al-Ali. Ces mesures gèlent les éventuels avoirs des personnes concernées aux États-Unis, barrent leur accès au système financier américain et ou leur interdisent l'entrée sur le territoire américain. Donc, pas grand-chose. « Eh bien, en Irak, où une grande délégation saoudienne est rentrée il y a 2 jours pour signer des contrats, où il a signé effectivement 9 contrats, 11 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées, donc dans une attaque takfiriste contre une position militaire à l'entrée ouest de Bagdad, selon des sources policières médicales. L'Irak a déclaré il y a 3 ans la victoire sur le groupe takfiriste de Daesh, mais Daesh, grâce à la présence militaire américaine en Irak, possède encore des cellules clandestines, des cellules qui s'activent de temps à autre, mais qui se heurtent à la résistance des forces de sécurité, des militaires et surtout des Hashdashabi. En effet, il y a une ceinture agricole de Bagdad et c'est dans cette ceinture agricole que l'attaque a eu lieu. 5 membres des Hashdashabi tribales, des membres des tribus ayant adhéré les Hashdashabi, ont été tués donc dans cette attaque. L'attaque a débuté par des tirs de grenades sur une tourelle d'observation des Hashd tribales par des éléments de Daesh et il s'agissait en effet d'une attaque nocturne qui n'a jusqu'ici pas été officiellement revendiquée. Daesh était parvenu à s'emparer en 2014 de près d'un tiers du territoire irakien qu'il a été forcé d'abandonner fin 2017, heurté de plein fouet à la résistance irakienne créée à l'époque suite à une fatwa du grand Ayatollah Sistani. Eh bien, en Arabie Saoudite, le temps est assez maussade. Le roi Salman et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, très proche de Donald Trump, ont félicité avec du retard dimanche soir Joe Biden et Kamala Harris, élue président et vice-présidente des États-Unis. La veille, a annoncé l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Dernier responsable des monarchies arabes du Golfe Persique à réagir, le roi Salman a exprimé ses meilleurs vœux de succès et rappelé les relations historiques étroites particulières entre les deux pays et peuples amis. Je cite, « Le prince Mohammed a souhaité de son côté encore plus de progrès aux États-Unis, disant aspirer à poursuivre la coopération conjointe entre les deux pays amis. Le prince héritier et dirigeant de facto du royaume entretient une relation étroite avec le président américain des faits Donald Trump et le gendre et conseiller de ce dernier, Jared Kushner. » Après des relations crispées avec le démocrate Barack Obama, Riyad avait trouvé un soutien sans faille auprès de l'administration Trump, y compris lors du tollé mondial provoqué par l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Une experte de l'ONU et la CIA avaient conclu à l'implication du prince Mohammed bin Salman dans l'assassinat de ce journaliste contributeur au Washington Post, ancien poche du régime saoudien, avant d'en devenir critique. Ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, avait promis durant sa campagne qu'il allait réévaluer ses relations avec l'Arabie saoudite et s'assurer que l'Amérique ne renie pas ses valeurs pour vendre des armes ou acheter du pétrole. En Palestine, les forces d'occupation israéliennes ont mené dans la nuit de vendredi à samedi 7 novembre une série de perquisitions et d'arrestations dans les régions occupées de la Cisjordanie et d'Al-Rots. Selon des sources palestiniennes, des affrontements ont éclaté dans le camp de Kandalia à Rots après l'irruption des forces d'occupation dans ces quartiers et la prise d'assaut d'un bon nombre de ces domiciles. Les soldats d'occupation ont ouvert le feu sur les jeunes Palestiniens, blessant un d'entre eux. Ils ont également perquisitionné plusieurs domiciles, dont 3 appartements à des martyrs. Toujours à Rots, les forces d'occupation ont détenu 2 jeunes Palestiniens du quartier Sheikh Jarrah. Et puis, Al-Khalil, en Cisjordanie occupée, les forces d'occupation ont pris d'assaut la localité de Beit Rahel, tandis qu'à Naplouz, ils ont arrêté 4 jeunes Palestiniens près de la colonie de Yitzhar. Entre-temps, le rapport périodique publié par le bureau des médiatiques du Hamas en Cisjordanie a recensé 1854 violations israéliennes en Cisjordanie et Al-Rots durant le mois d'octobre 2020. Le rapport a fait état de la mort de 2 citoyens palestiniens, de 154 blessés par les tirs d'occupation, de l'arrestation de 384 civils et de la démolition de 16 maisons. Les forces d'occupation ont en outre effectué 356 perquisitions et d'incursions dans les régions de la Cisjordanie et d'Al-Quds. Et on va finir notre émission d'aujourd'hui au Liban, où le chef de courant patriotique libre, Gebran Bassil, qui vient d'être sanctionné par Trump partant, s'est prononcé au cours d'une allocution télévisée sur la chaîne libanaise Al-Mayadeen contre les sanctions américaines. Toutes nos positions, même avec le Hezbollah, portent exclusivement sur la préservation des intérêts de notre patrie. Dans toutes nos discussions avec les Américains, ils n'ont à aucun moment abordé la question de la corruption depuis 2005 et jusqu'à aujourd'hui. Nous leur avons pourtant demandé de cesser d'aider de soutenir les corrompus, a dit M. Bassil. Pourquoi ne nous aide-t-il pas dans cette crise économique en nous fournissant les informations nécessaires pour savoir quels fonds pillés ont été transférés à l'étranger, a-t-il demandé avant d'ajouter. Le président de la République avait récemment révélé que les Américains le pressent pour rompre immédiatement la relation avec le Hezbollah. Ma réponse immédiate et spontanée a été que ce n'est pas réalisable, car le courant ne répond à aucune instruction de la part d'aucun pays étranger. Nous sommes favorables à rester amis avec tous les pays du monde, notamment avec les États-Unis, et ce malgré ce qui s'est passé avec l'administration américaine précédente. Ces sanctions n'affecteront pas notre relation avec le peuple américain, leurs causes doivent être étudiées, et nous avons l'intention de développer des relations avec la nouvelle administration, a-t-il ajouté.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica.